Et donc là, on va ouvrir le débat avec le public. Et donc, si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Et. Alors, donc, je vais commencer par vous. Je ne peux pas commencer par Jamil.
Merci de m'avoir donné la parole. Je porte un témoignage en ce qui concerne l'aumônerie dans les prisons. Parce que, bon, d'une part, je suis aumônier depuis 11 ans à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. C'est vrai, les conditions sont très, très, très difficiles. Mais les détenus musulmans m'ont beaucoup apprécié depuis 11 ans. Et ils me réclament souvent lorsque je suis malade ou lorsque je suis absent. Ils me réclament. Et même la maison d'arrêt de Nanterre ne cesse pas de me réclamer.
Aumônier de quel culte ?
Musulman.
D'accord.
Et comment rien ?
Comment rien ?
La série sur le gâteau.
Alors, après, on a des formations, bien entendu. On nous a donné un diplôme. Et puis après, et ce qu'il a dit, mon frère, là. Il y avait des enquêtes, c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a, il y a des gens qui ne veulent pas faire cette profession. C'est-à-dire, parce qu'il y a des enquêtes policières qui sont nées depuis, pendant la formation et même après la formation.
Donc, même les téléphones de vos proches sont.
Oui, évidemment, évidemment, même les prêches qu'on fait, que j'ai fait chaque vendredi, et ils sont enregistrés, ils sont tout ça. Même je suis présent.
C'est tout le monde.
Il n'y a aucun problème.
Mais bon.
Aucun problème. Ce qui fait que il est normal. Nous avons notre place, l'islam a sa place dans la société. En 1960, l'année à laquelle je suis trouvé ici, tout s'est reposé à la mosquée de Paris. La prière. La petite viande halal, les petits djalaba, tout ça. Et aujourd'hui, il y a des mosquées partout. On n'a pas besoin d'aller à la mosquée de Paris pour faire la prière de vendredi. Je réponds à la question de la dame. Maintenant, dans les mosquées, il y a des écrans que vous pouvez voir l'imam.
Ah, voyons.
Si ça tombe en panne.
Voilà, c'est le problème au niveau de la technologie.
Merci. Hein.
Donc, ma question, c'est dit que nos instances musulmanes supérieures ont un siècle de retard concernant notre religion par rapport aux chrétiens.
Est-ce que pour mon hajj, je peux avoir aussi l'écran et faire mon hajj chez moi ou...
Vous pouvez suivre une conférence qui s'est passée au Maroc, Paye. Ici même sur le Mélégan.
Désolé.
Alors, merci pour le témoignage. Alors, pas Bakary, voilà, madame qui est à côté de Bakary, allez-y. Non, parce que Bakary, je le connais, quand il va commencer à parler, allez-y.
En tant qu'apprenti spécialiste du genre, j'ai du mal à. Enfin, j'ai peur d'entendre cette expression féministe islamique. Parce que j'ai longtemps été fascinée dans cette culture de soumission. Puis, j'ai enchaîné avec la religion, il fallait être vraiment tout le temps derrière les hommes, après les hommes, enfin, être objet, faire. Enfin, le plaisir, tout ça. Et à chaque fois que je me rends compte qu'il y a une autre personne, une autre femme qui essaie de sortir de. Qui essaie de faire un clivage, je suis choquée en fait. Et c'est au-delà de mes convictions personnelles. Alors, moi, ma question, c'était, est-ce qu'il fallait, tu parles tout le temps de revoir les textes, est-ce qu'il ne faut pas revoir cette question de la femme dans l'islam, de nos fonctions, ces fonctions qui favorisent les rôles sociaux dans l'islam, la personne qui dirige l'homme, la personne qui assiste la femme et les enfants qui subissent le patriarcat dans l'islam, dans les termes, devrait-il être revu ou pas? Et je vais basculer avec ma chantier qui n'a pas arrêté de nous bâtir avec papa, fille, papa, comme si l'islam justement devait être. Enfin, les savoir son axe.
Parce que ma maman est morte, j'étais très jeune, madame.
Je pense qu'une autre personne aurait tenu le même discours, les sciences sont acquises par les hommes et ce sont les hommes aussi.
Non, c'est parce que ma maman est morte, j'avais 10 ans, madame.
Bon, d'accord.
Voilà.
D'accord.
Alors, notez les questions. On va prendre plusieurs questions, donc vous pouvez les noter. Et alors, Bakary, je reviens. Alors, vas-y.
Nela, c'est rafraîchissant de vous écouter. Moi,
Mais j'ai une seule question pour aller encore en avant. Je pense que sur le plan du savoir, de l'acquisition des savoirs, vous êtes prêts à aller faire le combat. Est-ce que vous irez jusqu'à diriger la prière?
Merci pour cette question. Okay. Alors, monsieur.
La question de la légitimité, je l'ai trouvée un peu limite parce qu'on est avec des gens qui sont légitimes et quand on rentre dans une mosquée, par exemple, et qu'on sait et qu'on est face à des gens qui ne savent pas, en fait, c'est comme les règles du football. À un moment donné, celui qui sait, qui va prédiquer. La question que j'aimerais avoir des intervenants, y a-t-il un problème noir en islam? Est-ce qu'être noir, c'est un problème en islam ou chez les musulmans? C'est la question qui me paraît la plus pertinente. Parce que savoir ou pas savoir, à un moment, être imam, si on le sait, on y va devant. Si on ne le sait pas, on est derrière.
Voilà. Ah, encore d'autres questions? Allez-y.
Oui, moi j'avais une question pour
Vous pouvez élever un peu la voix?
Ouais, parce que j'ai pris froid. Ah. De la clim. Non, tout simplement, je suis responsable d'un DU formation civile et civique, justement, qui a été relancé avec nos apportages 2004, qui avait quand même démarré bien avant. En particulier à Strasbourg et dans d'autres villes, ça concerne tous les aumôniers. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même faire attention au prisme auto-centré, c'est-à-dire que là, il y a eu justement aussi des docteurs protestants qui étaient tenus aussi de se former, de revenir sur les bancs de l'école, et après, il y a la validation des acquis de l'expérience, et la validation aussi des diplômes. Donc, à un moment donné, je pense qu'il s'agit aussi peut-être de dépasser l'idée qu'on est tous sous surveillance, évidemment qu'on est tous sous surveillance, mais en même temps, l'idée c'est aussi peut-être de faire se rencontrer des acteurs religieux, mais de différentes religions. Là, les seuls religieux qui n'ont pas répondu à l'appel, c'est le judaïsme. On n'a aucun aumônier, par exemple, juif, mais en revanche, c'est vrai que pour ma part, ça se passe dans les Alpes-Maritimes, il est vrai aussi que je n'ai pas d'aumônier. Comorien, je n'ai pas d'aumônier, effectivement. Et pourtant, ce n'est pas faute de transmettre l'information, mais en tout cas de donner de la communication en ce sens. Peut-être qu'ils vont à Aix, hein, mais bon, voilà.
D'accord. Alors, Nyan.
Ah, merci. Moi, j'aurais juste une petite question à Ander Lapaï. Mais avant ça. Ça va être 10 secondes la question.
Mais, on vient du même pays, hein, c'est gentil.
Non, mais ça peut être. On a beaucoup de points communs, toi et moi, ça, ce n'est pas un problème. Mais j'ai beaucoup entendu la femme en islam, la musique en islam, le noir en islam. Moi, la première question que j'aimerais poser à nos clercs qui sont là, qui est monsieur Islam? Parce qu'on parle tous en islam, et il faudra qu'on puisse savoir qui est l'islam, qu'est-ce que ça veut dire islam avant de dire ça. L'autre chose, c'est que j'ai eu un doctorat en études arabes, je suis arabisant. Mais en première année de licence, j'avais deux amis, l'un algérien, l'autre marocain. J'ai fait une erreur et jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont plus parlé. J'ai fait l'erreur grave d'avoir 18 sur 20 dans un examen de grammaire arabe. Et eux, ils ont eu 15, d'autres 14. En tant que noir sénégalais, il ne fallait pas les dépasser dans les études arabes. Du coup, ça, c'est vraiment un vrai problème. La question que je vais te poser, Andela, c'est par rapport aux références que nous avons. Parce que même sur les maqatib, on peut les questionner. Voilà.
Mais, c'est questionnable.
Voilà, les maqatib, même les maqatib, on peut les questionner. Mais sur les références, parce que moi je dis que j'arrive plus à lire le Coran sans faire appel à France Fanon par exemple. Et que, quand je dis ça peut choquer certains. Et du coup toi qui vas te référer à plusieurs références islamiques ou non islamiques, qu'est-ce que tu vas faire quand par exemple, je ne sais pas, une interprétation ou tel verset va aller à l'encontre d'une philosophie à laquelle tu adhérais? Ça c'est ma première question. La deuxième question, c'est que c'était un dernier
point. J'ai une question en 10 secondes.
Ah.
J'ai compris les deux.
Allez, sujets. La deuxième.
La deuxième. Dans 10 secondes chez nous au Sénégal, ça veut dire ça.
Il y a trop de Sénégalais là.
Voilà. Voilà les préjugés d'où ils viennent.
Trop Sénégalais.
Non, on assume ces préjugés. Oui.
La deuxième question, c'était par rapport à une interview que j'avais lue, je pense c'était il y a 2 ou 3 ans, quand tu parlais que quand on vient d'une minorité et qu'on a subi des discriminations, on ne peut pas se permettre d'opprimer une autre minorité. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'avais quitté une association parce qu'il voulait rejoindre le Manif pour tous contre le mariage homosexuel. Du coup, je ne sais pas si tu peux nous éclairer un peu plus sur ça.
Merci, Yann. Ah, alors,
c'était 10 secondes, non?
Oui, vas-y.
Sénégalais.
Alors, notez les questions. Voilà. Vous allez prendre une minute pour répondre, donc il faut faire un package. Allez-y.
Moi, je voulais intervenir par rapport à est-ce que le noir est un problème en islam. Mohamed Berzafi a dit tout au long de sa communication que lui, personnellement, il n'a pas eu à rencontrer ces problèmes. Est-ce que quelque part, il n'est pas assimilé? Parce que chez nous, par exemple, il y a beaucoup de gens qui assimilent les Comoriens aux Arabes aussi. Parce que vous avez même parlé d'une thèse qui a été soutenue dans ce cadre. Cela me ramène aussi à l'intervention de Mohamed Saïd par rapport au fait d'être, comment dirais-je, aumônier. Parce que moi, dans le cadre de cette équipe, j'ai eu affaire à collecter des récits. J'ai rencontré, par exemple, des arabophones qui sont originaires du Mali, qui sont aumôniers, qui sont devenus aumôniers après les contrôles, tout ce qu'on a.
Des gens bien. Ils viennent du Mali, donc, c'est normal.
Non, je ne dirais pas ça, parce qu'en fait, en tout cas, ils ont pu passer toutes les étapes. Parce qu'à Faraba, il y a plein d'enquêtes pour être aumônier en France, c'est pas évident, quoi. Et puis, mais ils me disaient que quand on intervenait dans des prisons ou dans des hôpitaux, les gens disaient, vous êtes aumônier catholique, par exemple, parce qu'ils sont noirs. Donc tout de suite, à chaque fois, même d'autres noirs qui sont dans les prisons ou dans les hôpitaux.
Ou les noirs sont chrétiens ou animistes, je l'ai dit.
En fait, on les assimilait. Ils me l'ont dit tout au long du truc. Et puis, voilà, c'est pourquoi je dis, bon, cette histoire noire, c'est un problème. Déjà, l'islam en soi est un problème en France, il faut le dire. Quelque part, et les mots noirs, je pense qu'on ne peut pas occulter ces problèmes quand même. Même quand j'ai aussi dans le cadre de cette même étude, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes effectivement dans les mosquées concernant être ciblé en naïb ou imam à propos des lectures. Il y a plein de problèmes, on ne peut pas occulter ça, on ne peut pas dire que quand même aujourd'hui en France il n'y a pas ces problèmes.
Donc on prend deux questions. Alors monsieur, Juliette, merci. Deux questions déjà ou...
De toute façon, on déborde, on dit.
Les réponses, ça sera une minute, hein. Une minute maximum pour chacun.
Il reste un quart d'heure en tout.
D'accord. Alors, allez-y, monsieur.
Moi, en fait, depuis ce matin, en écoutant les intervenants jusqu'à cette table, bah, en fait, je me sens à la fois. J'ai traversé toutes les émotions, pour vous dire. Je me sens à la fois tantôt privilégié, tantôt stigmatisé, étant d'origine comorienne. Je rejoins ce qu'il disait tout à l'heure le cher Bachrafil. Moi personnellement, c'est pas le propos, mais j'ai jamais ressenti ce racisme culturel ou religieux. Et du coup, depuis ce matin, c'est vous qui allez prendre les frais. Mais je voulais vous demander que du coup, on doit créer, on doit limite radicaliser l'islam et avoir une fédération de musulmans, quand je dis africains, c'est noirs, subsahariens, du coup, et dans ce cas-là, en contrebalance.
Black Muslims.
Comment?
Black Muslims.
Voilà, Black Muslims. Et dans ce cas-là, nous, on devient même, à ce moment-là, ceux qui vont stigmatiser les autres, qui sont arabes, et au final, où est l'islam? Et pour revenir à. Au livre du cher Bachrafil sur l'islam de France, moi, une expression que je respecte, mais que j'ai toujours eu un peu du mal sur l'islam de France, et du coup, on va avoir l'islam de France, l'islam d'Afrique noire, l'islam, et au final, l'islam, comme disait le frère juste devant, l'islam existe où en fait? C'est quoi l'islam en fait?
Alors, d'autres questions, allez-y.
Oui, moi, je reviens juste sur la légitimité. Quand on parle de légitimité, le tour de table a été fait autour de ce mot. Alors que pour moi, c'est juste une déclinaison de ce qu'on vit en société. C'est exactement ça qui se répercute à notre échelle. Nous tous, on a vécu ces petits problèmes par rapport à notre couleur. Donc je pense que cette question, aujourd'hui, la réponse, elle est là. On a Imam Ahmed, on a Imam Mohamed. Imam Mohamed encore, qui officie dans
les imams.
Je parlais juste des imams. Donc, qui officie dans les mosquées. Dans des mosquées. Okay. Donc, ça, c'est la preuve que la légitimité, elle se gagne en fait. C'est pas une question qu'on vient poser pour dire je suis légitime. Non, c'est à partir de ce moment qu'on se rend légitime.
Et ça, la réponse, elle est là aujourd'hui. Donc ce débat, on devait l'amener sur l'autre terrain du problème noir dans l'islam, qui est réel et qu'on vit, nous, au quotidien. Pour ne pas...
Merci. En tout cas, merci pour la contribution, cette remarque. Alors, peut-être on va s'arrêter là et on répond à Juliette.
Non, c'est pas une question, c'est juste un témoignage.
Alors là, il y avait deux... Alors, allez-y.
Ce sera pas la demi.
Non, une minute, vous avez une minute.
Il est 16 déjà.
Allez-y, monsieur.
Merci. Oui. Bonjour tout le monde. Comment dire c'est Ahmed qui a bien résumé l'imam de Marseille en parlant d'un événement. Moi, c'est ce que je dis, et j'ai eu l'occasion d'en discuter deux mois avec Ousmane tout à l'heure. Je l'ai dit également à Juliette, qui fait partie de l'organisation et qui m'a contacté pour participer à ce moment. Mmh. Effectivement, Ahmed, ce que tu dis, je le partage profondément, c'est un événement de nous voir rassemblés ici, tous ensemble, vraiment dans un cadre génial, et de pouvoir enfin aborder cette question de la représentation des musulmans subsahariens et comoriens. Merci pour la petite nuance, effectivement. On se pose la question pourquoi comoriens, alors que, bon, logiquement, par définition, pour nous, Africains, les Comoriens sont Africains également. Donc, être là pour participer à ce moment vraiment, j'ose même dire historique, hein, en tout cas dans le cadre académique, et d'entendre ce que j'ai entendu depuis ce matin, parce que la première séance de ce matin était très, très intéressante, tous les intervenants, mais il y avait une gêne quand même que j'ai ressentie au bout des différentes interventions, parce que je me dis, enfin, c'est mon appréhension, j'étais venu avec l'idée que j'allais pouvoir entendre des exposés sur la réalité de cet islam que vivent ces communautés musulmanes subsahariennes et comoriennes, et leur expérience diverse et variée, leur trajectoire, et puis leur participation dans l'organisation de l'islam de France. J'ai beaucoup entendu, et c'est vrai, il a été question de ça, hein, les communicants l'ont fait à un certain égard, mais j'ai surtout beaucoup entendu, alors je mets des guillemets, hein, une souffrance noire. Un mal-être noir qui, moi, me met mal à l'aise. C'est pas que je le nie. Y a une réalité, effectivement, mais ce n'est pas qu'au niveau de l'islam. Bon, c'est certes notre sujet sur l'islam. Donc, je me dis, il faut qu'on fasse attention à ne pas trop jeter l'eau du bain avec le bébé dedans, quoi. Parce que.
En tout cas, ça vous interroge. Mais le colloque est sur deux jours, hein, donc demain aussi il y a des intervenants, et tout à l'heure aussi il y a des intervenants. Donc, il y aura d'autres thématiques qui seront abordées.
J'attends parfaitement, j'ai le programme, je vous remercie. Mais je disais simplement qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas jeter l'eau du bain dedans, parce qu'on est là pour découvrir la richesse de cet islam, de ces communautés que nous formons, et de cette participation à l'organisation de cet islam qui est en train de se construire, et pas de venir nous auto-flageller sur nos problèmes qu'on a avec nos co-religionnaires arabes ou européens. Quoi. Mm-hmm.
Voilà. Ben, en tout cas, merci pour cette contribution aussi, qui donne aussi un autre point de vue, et qui me paraît important aussi. Allez-y, Ousmane. C'est la dernière question, et puis après, vous allez répondre.
On est d'accord pour dire qu'il y a un certain complexe de supériorité de la part de certains arabes, ou des instances. Est-ce qu'il y a aussi un complexe d'infériorité?
Est-ce que vous interpellez une personne en particulier ou...
Non, là, je pose la question à tout le monde ici. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un complexe d'infériorité qui se transparaît dans dans les expressions que nous avons. Et deuxième question, est-ce qu'il faut organiser la représentation africaine, musulmane sur plan culturel, théologique et autres de façon spécifique? Ici, oui. Comment concilier cela avec l'idée d'unité?
Merci. Alors, donc, du coup, on va commencer. Voilà, 2 minutes chacun. On va commencer par une tradition malienne à droite.
Questions.
Hein?
2 minutes pour
Il y a des questions qui passeront à la trappe.
Hein. Oui. Essayez de faire très bref, aller à l'essentiel, comme on sait faire aux Comores. Allez-y, monsieur.
C'est 10 secondes sénégalaises, c'est parti.
À la question, est-ce qu'il y a un problème noir dans l'islam? Le noir, il y a un problème
donc pas seulement l'islam, on le sait. Le prophète est venu, il a dit, je suis envoyé pour toute la communauté, tous les humains. Donc maintenant, c'est les gens qui n'arrivent pas à comprendre cela. On l'a vu quand il a reconquis la Mecque, lorsque les Sahaba voulaient prendre la clé chez Mahmoud, aussi s'est passé le prophète sur la Mecque. Le prophète a dit non, même s'il n'est pas arabe, mais il a là, le droit. Donc voilà. Et le problème continue. Et aujourd'hui, on sent bien sûr qu'il y a un souci d'infériorité pour le noir. Il n'arrive pas à s'affirmer. Pour le DU, oui. Il y a, moi, j'étais dans le DU avec des imams, avec des prêtres, avec beaucoup de monde. Et d'ailleurs, c'est, bon, pendant cette formation, j'étais le seul imam sur 8 qui a pu valider son DU. C'est le premier DU, en 2015. Les autres devront passer l'année d'après. Et c'est vrai, et dans la prison où j'interviens, on a ce qu'on appelle, on va là, arrivant tous les mardis, tous les cuites, pour rencontrer les détenus qui viennent d'arriver, qui eux, ils sont stationnés dans le quartier arrivant, avant d'être acheminés dans les bâtiments, différents bâtiments. Et à ce moment-là, donc, chacun présente sa religion, le droit qu'il a comme détenu ou croyant d'exercer son culte en prison. Et bon, l'administration pénitentiaire nous a mis à disposition tout cela. On a toujours été bien accueillis, aussi bien par les surveillants que par les détenus qui viennent. Donc, et pour finir, avec aumônier malien, moi, personnellement, pourquoi j'ai fait 3 vendredis par jour? Voilà, c'est là ça la question.
Par jour, le vendredi. Le vendredi.
3 vendredis par jour.
Hier, c'est vraiment ce qui est différent entre 3 ou 3 voilà. Personnes. Enfin,
on est dans la mosquée. Parce que je savais que c'était
une prise. Dans la mosquée en ville.
Bah, une mosquée et après une autre. Après,
tout de suite, on me ramène en prison où je dois diriger deux prières pour deux bâtiments différents. Parce que les gens qui sont en bâtiment A ne doivent pas croiser ceux qui sont en bâtiment B. Donc, ce qui fait que moi, je suis dans une salle, on me ramène les détenus du bâtiment A. Et puis, la deuxième fois, vendredi. Et après, une deuxième intervention vendredi dans la prison. J'ai fini ma journée.
Chez Malik.
Bon, vers 17h. Parfois, je fais simplement en ligne avec eux. Et quand je ne viens pas, parce qu'il y a des Tunisiens, des imams marocains, algériens, ils disent non, on veut le noir.
Donc, c'est plus le comment, rien que le noir.
Le noir. Non, non, c'est pas parce qu'ils stigmatisent, non. Ils veulent la qualité de la chose. Voilà, c'est ça.
Voilà, merci. Voilà. Ah, merci. Alors, Madame de la Paille, allez-y.
Pas plus de 10 secondes, hein, franchement.
Non, pas 10 secondes, 2 minutes.
10 secondes sénégalais.
10 secondes, voilà, c'est ça.
Allez-y.
En fait, je suis militante, hein, comme on l'a dit dès le départ. Et le truc.
On l'a compris, madame.
C'est pas gentil avec moi. Bref. Il y a des principes qu'on pose peut-être et que je me suis dit, bon, allez, on est entre personnes à la fac et tout, peut-être que voilà, il fallait pas. Mais c'est vrai qu'il y a des définitions peut-être à donner. Quand on parle de discrimination et de domination, on parle de systémique. Moi, je parle pas des interactions individuelles, ça m'intéresse pas. Mm-hmm. Qu'un arabe, qu'on soit voisin, qu'il m'aime pas, c'est son droit. Le blanc, il m'aime pas, c'est son droit. Mais ce qu'on veut, c'est qu'à l'intérieur du système, qu'on ait les mêmes droits. Et que dans le fait que tu n'as pas d'amour pour moi, que tu n'es pas un système qui te soutienne. Et il y a une réalité qui est. Donc on vit ici, mais on a des interactions avec nos pays d'origine. La négrophobie est systémique dans les pays arabes. C'est une réalité. Et donc, ça, c'est des faits ici. On ne peut pas le nier parce que nous, dans nos trucs individuels, on n'a pas de problème, on n'a jamais été discriminé. C'est une réalité systémique. Qu'individuellement, qu'on ait des super amis arabes qui nous aiment et d'autres qui nous détestent, ça, c'est autre chose. Je m'en fous à la limite. Les gens ne sont pas obligés de m'aimer. Je ne suis pas là pour être aimé. Voilà. Mais je suis là, comme Luther King le disait, la loi ne peut pas vous obliger à m'aimer, mais doit vous interdire de me lyncher. Voilà. Nous, on veut les mêmes droits pour tout le monde. Que dans cet islam-là, voilà, le monsieur islam, c'est l'islam théorique qu'on nous oppose tout le temps, à chaque fois. Quand on essaie d'émettre des critiques par rapport à l'islam, c'est ce qu'on t'amène. Non, mais ce n'est pas la faute à l'islam. Parle pas de négrophobie dans l'islam. Non, mais les femmes et les hommes sont égaux dans l'islam. Ça n'existe pas. Monsieur, madame, islam n'existe pas. C'est le truc théorique pour fermer le clapet des gens en fait qui se plaignent. Moi, je veux avoir, c'est un droit que j'arrache. Je ne demande pas ce droit-là. Je veux avoir le droit de pouvoir critiquer ma religion. M-A-O-O-O-O, capital. Ma religion. Je veux avoir ce droit-là. de critiquer ma religion sans que n'importe quel avocat commis d'office de l'islam vienne m'expliquer ma religion. Je l'ai étudié assez et je me donne ce droit-là. Donc ça n'existe pas. L'histoire des oppressions, est-ce qu'une minorité peut? Donc le texte que je vous disais tout à l'heure qui est à sortir dans un bouquin collectif. J'y développe énormément d'autres choses. C'est-à-dire que les gens ont du mal à s'imaginer appartenir à une minorité, donc dominée, et en même temps à une majorité dominante. Je prends l'exemple des hommes. Toi, comme homme noir, en France, dans le patriarcat, même si c'est à des degrés différents, j'espère que... voilà, c'est un vocabulaire, je vais vite parce que je n'ai pas le temps de définir et tout ça. Mais donc tu bénéficies du patriarcat, même si ce n'est pas au même titre qu'un homme blanc, parce qu'ils sont au summum du truc. Donc, mais dans le système raciste, tu es dominé. Dans le système patriarcat, tu es dominant. Donc une minorité peut. Le truc, c'est que quand tu es une minorité qui oppresse, en fait, tu as un moi-moi, c'est ce qu'on appelle les moi-moi, sur lequel on peut en fait te sensibiliser pour que tu comprennes d'autres minorités qui sont dominées. C'est-à-dire que moi, à un moment, j'ai pu être homophobe parce que je pensais que ma religion l'était. Et à une certaine lecture de ma religion l'est aussi. Et j'ai ouvert les yeux par rapport à l'homophobie quand j'ai vu que les féministes blanches venaient nous expliquer que, tu vois, le foulard, c'est une domination... Tout un tas de trucs que je subissais, et quand j'entendais parler des homosexuels, en fait, je me voyais reproduire exactement ce qu'on faisait. Donc quand tu as un moi-moi, on peut aller sur tes oppressions, en fait, pour te sensibiliser par rapport à d'autres que tu ne puisses pas opprimer. Mais quand tu es au summum, comme tu es un homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, tu n'as pas de moi-moi. C'est difficile d'essayer de t'expliquer, en fait. Tu vois, ce que les minorités peuvent
poursuivre. D'accord, 30 secondes.
Ouais, on peut appartenir. Donc, pour le patriarcat en islam, une fois de plus, moi je crois que j'avais fait une formation il y a très longtemps avec Homero. Je vais te balancer.
Il est là.
Je vais te balancer.
Ne vous cachez pas, Homero.
Non, mais un jour, c'est vrai, ça m'avait vachement fait plaisir quand tu nous avais sorti. Après, je ne sais plus les paroles exactes, mais tu disais que les... tu sais, le fait que quand on dit Mikar, tout ça, c'est très patriarcal, en fait, le vocabulaire qui est utilisé. Mais tu avais utilisé un truc plus joli que je n'arrive plus à sortir. Et en réalité... Voilà, c'était ça. Mais la façon dont tu... voilà, c'est-à-dire que, une fois de plus, il faut qu'on se donne ce droit-là comme Oum Salama le faisait. Les versets descendaient, elle dit, pourquoi on dit « il » ? Moi, je suis une femme, je vais être, en fait, interpellée en tant que femme. Et le prophète ne lui dit pas, Astaghfirullah, c'est le Coran, blablabla. Non, on transmet à Dieu. Là, on n'a pas Dieu directement, mais on a le droit de se questionner. Il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a pas de question bête, il n'y a pas de question haram. Il n'y a que des questions. Et ensuite, à chacun et à chacune, d'essayer de trouver des réponses qui apaisent son cœur. Parce que finalement, c'est des histoires de cœur après. Ce qui va t'apaiser ne va pas m'apaiser forcément. Donc, dans l'islam, c'est une réalité. Il y a une domination, une lecture patriarcale de la religion. Une fois, je viens de le dire. Non, mais je viens de le dire, je viens d'expliquer.
Elle a deux minutes.
Ça qui n'existe pas.
C'est fini, donc, les deux minutes.
Juste deux secondes.
Deux secondes.
Donc, il y a cette domination patriarcale qui existe, mais comme un de mes profs à l'EPHE en master de sciences sociales des religions disait, dans toutes les religions, on peut y trouver la paix comme la guerre. C'est-à-dire que les interprétations, en fait, c'est une question d'intelligence. Quand je dis intelligence, ce n'est pas plus intelligent. C'est une question de compréhension. Dans un seul verset, il y a énormément de compréhension qu'on peut sortir. Donc, le féminisme islamique, ce sont juste des femmes qui décident que de s'approprier les textes religieux et d'en sortir une égalité comme femme. Pas une complémentarité, mais une égalité comme femme.
Merci. Alors, allez-y, Mohamed Bajrafi. Pardon ?
Il y a la question
de devenir imam.
Oui. Alors, devenir imam, une seconde.
Déjà imam sur Internet, c'est la vie.
Alors, ouais, sur Internet, on m'appelle l'imam égaré. Voilà. Non, mais par rapport aux expériences, il y a...
La technologie, hein, elle progresse, hein.
Il y a... Oui, d'ailleurs, c'est super parce que le Hajj, moi, j'aurais plus besoin de dépenser de l'argent du tout.
Ben non.
Pour l'imam, en fait, je vais vous dire par rapport à... J'ai jamais eu l'intention de le faire. Mais ça ne me pose absolument pas de problème. Par exemple, il y a une dizaine d'années, j'avais participé à un colloque sur le féminisme islamique en Espagne. Et à l'époque, forcément, j'étais un peu plus... ça ne me posait pas que des problèmes que des personnes le fassent. Mais à la pause, le vendredi, c'était une imam qui venait d'Afrique du Sud qui avait dirigé la prière. Et la prière, elle était mixte, homme-femme. Il y avait des femmes qui avaient le foulard, d'autres ne l'avaient pas. À l'époque, je ne me sentais pas apte à faire la prière commune comme ça. Je ne me suis pas permis de juger les gens qui le faisaient. Je suis juste sortie, j'ai fait ma prière seule. Aujourd'hui, je ne sais pas, la question ne s'est jamais reposée. Parce qu'honnêtement, je suis devenue allergique aux mosquées, ça c'est vrai, c'est une réalité. Mais je n'ai pas la prétention en fait à devenir une femme imam, mais je trouve que ça devrait exister.
Merci.
Ça devrait exister.
Merci. Alors, Mohamed Bajrafil.
Alors, 10 secondes sénégalaises.
Vous avez 2 minutes.
Bon, alors, très rapidement, il y a une demoiselle qui m'a interpellé tout à l'heure sur le fait que j'ai parlé de mon père. Et pas de ma mère, je lui ai dit que ma maman était décédée et j'aurais aimé qu'elle soit là et que je puisse la citer dans mon éducation. Malheureusement, elle est partie plus tôt. Je vous en veux pas, même si ça a provoqué quelque chose en moi, mais c'est pas grave. Donc c'est pas, vous l'avez pas fait volontairement, donc je vous en veux pas, donc croyez pas que c'était pour des raisons autres que celle-là. C'est juste que la vie a fait que j'ai pas eu maman, je l'ai perdue très jeune et voilà. Mais aujourd'hui j'ai une fille et elle compte plus que ma vie et je compte me battre pour elle, et si elle veut devenir imam, je serai lui trouver les fatwas dans la jurisprudence du Liban
sur mesure,
parce que ça existe. Il y a eu des fuqaha qui ont dit cela. Moi je m'attarderai 2 secondes sur ce que vous avez dit, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une systématisation des termes. Or si on regarde le droit musulman dans son histoire, c'est un droit humain avant d'être musulman, et malheureusement même quand on parle de sciences islamiques, on croit que ce sont des sciences révélées, alors que le fiqh que va vous enseigner Cheikh Minta n'est pas plus islamique que les mathématiques ou le théorème de Thalès quand celui-ci vous aide à accomplir quelque chose. Ce sont des sciences humaines parce que ce sont des humains qui les ont créées. Ça, c'est quelque chose qui devrait être inscrit sur le fronton de tous les instituts de formation théologique. Vraiment. Parce qu'on part avec l'idée que les sciences dites islamiques seraient des sciences sacrées. Non, c'est faux. Et d'ailleurs, il n'y a pas de science interdite, même l'astrologie. Je vous renverrai à l'œuvre de Al-Firouz Abadi, mais ici, là n'est pas le temps. N'allez pas les questions. Mais quand je vous entends parler de l'impossibilité d'avoir que vous soyez choqués parce qu'on parle de féminisme islamique, encore une fois je rejoindrai en partie ce qu'a
dit. Il a du mal à
me rejoindre. Non, parce que j'ai une vision qui n'est pas forcément la vôtre sur ces questions-là. Notamment parce que je pense, et je l'avais dit, le monsieur, notre cher, l'a repris tout à l'heure, j'ai dit que Daesh, en fait aujourd'hui, il a son pendant dans ceux qui prétendent lutter contre lui. Parce que Daesh est ceux qui posent problème dans le patriarcat dit islamique, entre guillemets, partent de l'idée que ce que Nawawi, qui a vécu, qui est mort en 677 de l'Hégire, alors que nous sommes en 1440, c'est quelque chose qui doit être appliqué en 2018. Mais il ne faut surtout pas... On peut, ça c'est à critiquer, c'est du grand n'importe quoi. La preuve, on voit ce dans quoi ça nous a conduit. Mais de la même manière, si on veut lutter contre Daesh, en jugeant Nawawi avec les lunettes de 2018, c'est déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Ça n'a pas de sens en fait. Scientifiquement, c'est du n'importe quoi, ça tient pas. Vous ne pouvez pas juger des gens qui ne sont pas dans les mêmes paradigmes que vous. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2018. Si je veux juger, je ne parle pas de vous personnellement, c'est une ambiance globale. On va se moquer de « t'as vu, ils ont osé dire telle bêtise ». Mais non, si vous aviez vécu à ce moment-là, je vous garantis que vous auriez dit la même chose. Parce qu'il y a une notion que Foucault a développée qui s'appelle épistémé, qui s'explique de la manière la plus simple qui soit. Des gens qui vivent à une période donnée, à un moment donné de l'histoire, vont plus ou moins avoir la même vision du monde à quelques différences près. Et à partir de là, c'est une notion philosophique indéniable. Vous pouvez revenir même aller regarder l'imagination de Jules Verne au 19e siècle de la Terre du Monde, du Tour du Monde,
vous trouverez qu'il dit des âneries par rapport à nous qui vivons en 2018. Les plus grands scientifiques prenaient, je le disais avant de venir, prenaient Voltaire, c'est un antisémite notoire. Mais si on se situait au 19e siècle, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Et demain, ce que nous disons aujourd'hui, ceux qui viendront, s'ils ont les mêmes lunettes, je vous garantis, ils vont se moquer de nous, mais ce n'est pas scientifiquement constructible. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de lire les textes avec les lunettes de 2018. Pas de chercher à juger l'imam, non, je ne sais même pas à quoi ça me conduira. Et soit dit en passant, pour m'arrêter là-dessus et finir et ne pas prendre 10 secondes, 10 secondes autres sénégalaises, il faut vous dire que quand on voit... Dans le droit musulman, je suis quelqu'un de très critique. J'ai entendu la sœur dire tout à l'heure qu'il manque de gens qui prennent le taureau par les cornes. Moi, j'en balance et j'en ai rien à cirer. Hein. Je balance sur le droit musulman. Ce que je dis là, je le dis dans des mosquées. Et je leur dis, ce que Naoui a dit n'est plus aujourd'hui audible. Mon père, s'il m'entendait, mais il me lapiderait. Parce que lui, il a 80 ans et je peux lui trouver toutes les excuses du monde. En revanche, si quelqu'un comme vous, et ça, j'ai eu à le faire avec des jeunes qui sont nés en France, qui ont été à l'école de la République et qui m'ont tenu un discours que mon père ne tiendrait pas, qui m'ont dit, il suffit de regarder le calcul astronomique. Tous les ans, à la même question, on vient, on doit regarder à l'œil nu alors que nous avons été sur Mars. C'est du grand n'importe quoi. C'est vous qui me poserez problème si vous voulez, justement, que le monde d'aujourd'hui soit jugé par Edna, oui. Sur les conditions de la femme, je le dis sans aucun problème. Il y a, sur le plan anthropologique de l'homme arabe, un gros souci vis-à-vis de la femme. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Je l'assumerai devant je ne sais qui, je le dirai, je le dis. Et je demande qu'on me dise le contraire, parce que les textes sont là. Vous allez trouver quelqu'un comme Fakhruddin Razi, le grand philosophe, auquel jusqu'à maintenant on continue de faire allusion, qui vous dit clairement que Dieu a créé l'homme de la même manière qu'il a créé la femme pour l'homme, comme il a créé les bêtes et les plantes. Ça, c'est dans les exégèses du Coran, cela. Donc, quelqu'un qui va lire Razi et vouloir me l'appliquer aujourd'hui à ma fille, mais je l'assassine. Mais là, n'est pas le problème, ma sœur. Le problème, c'est qu'il faut... Non, c'est vrai, je ne permets pas qu'on considère ma fille comme une bête. Et celui qui le dit, et vous savez, c'est les arguments que j'utilise pour décortiquer, déconstruire leur discours. Viens, ta mère est une vache. Ton père, ta fille est une vache, ta sœur est une vache, il ne va pas vouloir l'admettre. Mais je lui dirai, ceux que tu sanctifies, mais voilà ce qu'ils ont dit. Mais encore une fois, ils sont les fils et les filles de leur temps. Il ne faut surtout pas déplacer le problème et vouloir, encore une fois, se moquer de ces gens-là sous prétexte qu'ils ont vécu à d'autres périodes. C'est du grand n'importe quoi et ça nous avancera nulle part. Et je m'arrêterai là-dessus.
Merci.
Ce discours-là ne passera jamais dans une mosquée. Si vous allez dans une mosquée, dans le but d'élever les gens, de les faire partir d'un niveau. Si Cheikh Minta, il va tenir ce discours-là, je vous garantis qu'on le descendra du mimbar. Et ça n'aura pas de sens parce qu'on aura perdu les gens. Parce que c'est souvent, on est assis là, à la fac, j'ai mes étudiants, je balance. Et quand je suis à la mosquée, si je tiens le discours que madame tient, et c'est normal qu'elle soit imam sur Internet, parce que si elle tombait, elle allait sur le terrain, je vous garantis que même si elle était blanche et ce que vous voulez, on l'aurait descendu du mimbar et on l'aurait jeté dehors. Il faut quand même
savoir raison. Il faut déjà une femme au mimbar et après on descendra. Il faut déjà une femme au mimbar.
Merci. Alors on va continuer avec Maïmouna Dramé. Si vous avez noté des questions, deux minutes.
Oui, alors, quelques questions. Le problème a été soulevé, y a-t-il un problème noir en France, un noir par rapport à l'islam en France? Pour ma part, je répondrai certainement que oui. Y a-t-il un complexe d'infériorité de la part d'Africains ici en France? Je répondrai également oui d'une part, et comme il y a un problème de supériorité également de l'autre part. Il y a juste une chose, une petite anecdote que je vais citer, qui m'interpelle. Un exemple qu'il y a depuis 2-3 ans, il y a des quêtes qui se font sur Internet, avec WhatsApp, les réseaux sociaux, etc., pour des djellbabs. Des djellbabs, on fait plein de récoltes de djellbabs. Pourquoi? Pour les envoyer où? Il y a des au Congo, parce qu'il y a plein de sœurs qui sont converties, au Sénégal ou au Mali ou autre chose. Alors, je fais beaucoup d'allers-retours au Sénégal et actuellement, je vois une profusion de djellbabs, de plus ou moins longs, noirs et autre chose, au détriment de nos wax, de nos bazins, de nos tchoubes, etc. C'est quelque chose qui m'interpelle, dans le sens où je me dis, pourtant, en Afrique, on a toujours été voilés, en fait. Nos femmes, déjà, dès qu'elles se marient, on a obligation de se couvrir la tête. C'est quelque chose de traditionnel, mais qui relève également de l'islam, où on se couvre, en fait. Alors, Là où je dis qu'il y a un problème par rapport à ça, c'est pourquoi en fait notre voile serait différent en fait du voile arabe. Donc est-ce que un djellab couvre plus que le grand foulard que nos mamans mettent, qui jettent, qui est plus ou moins coloré? Et on va entendre malheureusement, bah ici par exemple en France, puisque ici c'est le fait qu'il y a beaucoup de rencontres culturelles qu'on puisse se permettre d'entendre tout ça. Oui, mais les wax c'est trop coloré, donc ça attire. Pardon?
Il est où ton wax?
Mon wax, c'est à la maison, là.
Cherche pas la fille.
Elle est là. Je vais au travail. Je vais au travail. Souvent, je vais au travail au wax. Donc, avec vous, l'assistante sociale, oui, c'est moi. Donc, je suis là. J'étais au ministère du Travail donc l'an passé. Je suis venue en wax. On m'a pris pour la femme de ménage. Donc là, en fait, c'est là où la question se pose, en fait. De questions de plus ou moins là où je dis qu'il y a un problème en fait par rapport à ça, d'arabisation ou je ne sais quoi, ou par exemple aujourd'hui on perd notre culture, on va dire traditionnelle africaine. Je donne l'exemple du mariage parce que c'est vraiment symbolique, où on va dire entre guillemets les sœurs refusent de faire la tradition qui ne va pas à l'encontre de l'islam, attention, sous prétexte que non, c'est pas comme ça, etc. Et on se retrouve avec des traditions arabes dans les mariages africains. On va manger du poulet aux olives au lieu du tiel. Où il n'y a plus ce qu'on appelle traditionnellement donc la femme qu'on amène chez son mari avec la tradition, etc. Parce qu'on va dire non, ça ne fait pas partie de l'islam, alors que ça ne va pas à l'encontre de l'islam. Donc là où on se pose la question, oui, y a-t-il un complexe d'infériorité? Clairement. Parce que là, le fait que je sois africaine, le fait que je porte mon wax, le fait que ma mère porte son wax et que met son foulard qui cache même quelquefois plus que le djellab, avec le vent, on voit... Donc là, je me pose cette question. Donc de là à faire, une partie, je ne sais plus quel terme il avait dit, de faire quelque chose de concret, d'une spécificité pour les Africains, non, on n'est pas de là à là. Le but, c'est justement de s'unir et d'aller de l'avant, de gommer ces problèmes, puisque je pense que c'est plus le culturel qui a envahi... la place de la religion, mais certes il y a quelque chose à peut-être de notre part à revoir.
Merci. Et donc pour finir, Monsieur Diegan, si
par rapport aux questions, je sais que le temps nous presse. Bon, j'ai un peu l'avantage et il y a l'inconvénient aussi de parler en dernier lieu, mais l'avantage c'est que de pouvoir filtrer les questions, qui ont été traitées. Donc, je ne vais pas en parler. Mais là, je constate qu'il y a au moins 3 ou 4 questions qui n'ont pas été abordées. En 2 minutes, j'essaie de faire très vite. Donc, on a parlé à quelqu'un qui a parlé de d'une instance musulmane ici en France. Je crois que c'est plus que important. Donc, il y a une équipe qui est en train de travailler là-dessus. Bon, c'est vrai qu'il y en a eu déjà, le CFCM, les autres, tout ça, on sait. Donc, il y a l'AMIF qui va peut-être être créé. Donc, moi, avec le frère Mohamed Bajrafil, moi, on faisait partie,
des rebelles.
Des travaux. Donc, notre sœur aussi, c'est un discours qui est important aussi. Parce que ce qu'il faut, c'est pas de nous apprendre à obéir aux doigts et à l'œil. C'est-à-dire, ce qu'il nous faut, c'est d'avoir une instance dans laquelle on va apprendre à réfléchir et à respecter l'autre. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autre jour, dans la commission théologique, il y a eu 3 sœurs qui étaient venues, 3 femmes. Nous, on veut être imam. On est candidat pour être imam. On veut que ça soit tenu, qu'on tienne compte de ça pour la nouvelle organisation de l'islam en France. 3 candidates. Donc, c'est pour ça que, ce qu'elle dit tout à l'heure, moi, je la respecte. Et ça nous permet de réfléchir, nous tous, et savoir comment... Heureusement, l'islam est une religion. Eh bien, on a voulu nous placer des œillères, mais l'islam, c'est une religion qui nous incite à être intelligents pour pouvoir transcender les difficultés liées à l'espace et au temps, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il faut maintenant une instance pour les Noirs, un islam noir? Bon, là, moi, je dis toujours... Je ne suis pas d'accord.
C'est l'islam de France.
Voilà. L'islam, c'est l'islam. Bon, au début, c'est vrai qu'il y a la FAECA qui avait travaillé sur ça. Bon, mais je crois que ce serait toujours très, très compliqué de vouloir créer une minorité dans une minorité et jamais finir. Donc, je crois qu'il faudrait essayer de travailler avec intelligence essayer de travailler la main dans la main, même si c'est difficile, même si on est différent, et donc et transcender tous ces obstacles et qui se présentent devant nous.
30 secondes.
Voilà, 30 secondes. Donc, est-ce qu'il y a un mal-être noir? Donc, je crois que ça aussi, bon, ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en train de discuter, de réfléchir, mais on est tous fiers d'être ce que l'on est. Ceux qui sont noirs sont fiers d'être noirs. Ceux qui sont blancs ou arabes, tout ça, ils sont fiers d'être ce qu'ils sont. Les juifs aussi sont fiers. Ce qu'il faut, c'est qu'on apprenne à participer, à instaurer une société dans laquelle on respecte chacun. On contribue au respect de tout un chacun, parce que le fait de respecter l'autre, c'est une manière... Eh bien, de te respecter soi-même et d'imposer les autres à ce que aussi ils te respectent. Donc, juste un dernier petit mot, c'est-à-dire, il a parlé de vérité première. Il y avait un philosophe qui s'appelait Alain qui avait parlé de vérité première et erreur première. Ce qui était une vérité dans le temps, peut-être qu'aujourd'hui c'est une erreur. Et ce que nous considérons comme étant une vérité aujourd'hui, peut-être demain, ça pourrait être une erreur. Donc, voilà tout ce que je voulais dire là-dessus. Je vous remercie.